Nous allons accueillir maintenant Catherine Volpiac, Auger, directrice des œuvres complètes de Montesquieu, imprimées et en ligne, professeure émérite de littérature française à l'ENS de Lyon et membre du laboratoire IRIM, spécialiste également d'histoire des idées en France au XVIIIe siècle. Elle a mené de nombreux séminaires sur la théorie et la pratique de l'édition critique. Avec Philippe Stewart et Nadezhda Pavlinskaya, elle publie La correspondance de Montesquieu, 2014-2021 pour l'édition imprimée, 2023 pour l'édition en ligne. Papier versus numérique, coexistence ou concurrence, la correspondance de Montesquieu. Catherine, ça va être à toi.
Pendant ce temps-là, je peux commencer à dire que nous allons avoir quelque chose d'extrêmement différent, puisque d'abord c'est une correspondance d'auteur, ce qui pose ses propres problématiques, puisqu'on ne sait jamais si la correspondance est une œuvre ou pas. Vous allez voir que la correspondance de Montesquieu, ce n'est pas toujours une œuvre, surtout que nous publions la correspondance passive, correspondance active et correspondance passive, c'est-à-dire celle qui est reçue également. Et on n'est pas tout à fait sur le même ordre de grandeur que ce qui vient de nous être exposé. Vous allez voir tout de suite ce qu'il en est. Donc, pour une précision pour ce PowerPoint. Quand il est moche, c'est moi. Quand il est mieux, c'est Nadine et Maud également, et Maud Ingarao et Nathalie Arlin. Vous verrez tout de suite ce qu'il en est. Alors, d'abord, ça c'est l'annonce de mon plan. Quelques données pour ceux d'entre vous qui ne maîtriseraient pas tout de la correspondance de Montesquieu. Ensuite, nous vous expliquerons pourquoi une nouvelle édition critique numérique partielle s'est imposée et comment nous essayons, avec un inventaire de la correspondance, d'avoir une saisie globale de la correspondance de Montesquieu. Donc, Montesquieu est né en 1689, donc on commence à voir les premières lettres autour de 1700. Il meurt en 1755, donc on a en gros un demi-siècle de correspondance. Là, déjà, ce n'est pas la même chose. Continuons. Les données. Édition existante. La première édition est, philosophiquement intéressante parce que je pense que Montesquieu est un des premiers philosophes du XVIIIe siècle dont on publie la correspondance. Mais ce sont des lettres familières, c'est-à-dire que l'on est plutôt sur le modèle cicéronien, c'est-à-dire des lettres fort agréables où on voit le grand homme, alors non pas dans son négligé, ne plaisantant pas, mais expliquant à ses amis à quel point il est désireux qu'un tel finisse une dissertation, qu'un autre publie quelque chose, etc. Donc, 59 lettres. Mais enfin, en même temps, ce sont tous de grands personnages, bien, et à divers amis d'Italie. Ensuite, petit à petit, chaque édition d'œuvres complètes de Montesquieu s'enrichit. On arrive à 158 lettres un siècle après. Vous voyez que là, vraiment une grosse différence avec le corpus précédent. Là, il y en a un qui commence à rêver, à se dire « Mais pourquoi n'ai-je pas travaillé sur Montesquieu ?» 1914, énorme différence en 40 ans. Pourquoi ? Parce que la famille Montesquieu a ouvert les archives du château de la Brède et donc que Montesquieu, qui gardait beaucoup de doubles, enfin non pas des doubles, mais des copies, des brouillons de ses lettres, donc ses archives s'ouvrent, et évidemment, c'est une véritable révélation. On a ensuite, donc 1914, on a ensuite une édition qui est très souvent négligée des spécialistes du XVIIIe siècle. Elle a un tort, elle ne s'appelle pas Montesquieu Correspondance, parce que la correspondance est inclue dans les œuvres complètes. Donc je vois régulièrement citer l'édition de 1914, comme si en gros il y avait une édition par siècle. Il ne faut quand même pas exagérer. Je sais bien que Montesquieu est un auteur secondaire, mais quand même il y a eu une édition en 1955. Mais par exemple, l'édition de la Pléiade, deux volumes consacrés à Montesquieu, qui datent de 1949 et 51, ne comprennent pas la correspondance. Hein, toujours ce statut ambigu de ce qui fait partie de l'œuvre, mais qui n'en fait pas partie. Et pour vous donner aussi, enfin, il y a eu aussi un autre point remarquable. En 1982, a émergé un gisement de 68 lettres qui ont été publiées à part et, évidemment, que nous incorporons dans l'édition actuelle. Alors, donc, des œuvres imprimées. Donc, vous avez ici ce à quoi ressemblent nos œuvres complètes imprimées avec le tome 18, qui est paru en 1998. C'était le premier volume de la collection. Donc, maintenant, on arrive à un corpus d'environ 1000 lettres. Un gros trou qui correspond à la mort des premiers éditeurs et au fait que je reprends les choses. Et tome 19, tome 20 et tome 21 en cours. Vous voyez donc que y a évidemment beaucoup moins de corpus pour 1700-1731 que pour les années 1747-1750. Par exemple, c'est la publication de l'Esprit des lois. Donc, vous avez les échanges avec l'éditeur, vous avez les lettres de félicitations, parce que quand Montesquieu reçoit des félicitations, il les garde. Alors, celles-là, on les a. Voilà. Et vous voyez que nous nous lançons dans le numérique alors que nous n'avons pas terminé l'édition imprimée, ce qui paraît un peu hasardeux, ambitieux, mais qui, en fait, vous allez voir que, évidemment, cela correspond... 17... Zut, c'est pas ce que je voulais faire. Pardon. Il vaut mieux que... Ah, bah, peut-être si, avec la... Ça va, ira peut-être mieux avec la souris. Donc, vous voyez qu'en fait, ce qui doit être publié en numérique, c'est la période 1700-1731, qui correspond au tome 18. Tiens, Nadine, si tu peux le faire passer pour le feuilleter. Donc, avec mes collègues, l'un russe, l'autre américain, eh bien, nous avons fait cette première publication. Donc, et bien sûr, avec l'équipe ici présente, Nadine. Et Nadine et Nathalie, et Nathalie prendra le relais ensuite pour vous montrer les aspects. Comment ça fonctionne. Alors, pourquoi, alors que l'édition est publiée en 1998, exactement 25 ans après, mais on a commencé quand même il y a bien 5 ans, donc comment, pourquoi 20 ans après, on refait quelque chose? C'est pour vous montrer aussi comment les projets peuvent évoluer et comment s'impose l'idée, petit à petit, l'idée du numérique. Voilà. D'abord, il nous est apparu que c'est, le numérique, j'ai appelé ça un produit de substitution. Nous avions d'abord eu l'idée de... dans toute édition qui dure pendant un certain temps, on prévoit le dernier volume, c'est le volume... on appelle ça la voiture balai. Ça permet de... quand il y a des ajouts, il peut y avoir de nouvelles lettres qui sortent. Hein, et aussi, on peut corriger ses erreurs. Donc, nous nous sommes dit, on va corriger. On a trouvé quelques erreurs dans le tome 18. On en a trouvé tellement que les bras nous en sont tombés. Donc, il y avait des raisons scientifiques à le refaire. Sauf qu'il y avait aussi des raisons commerciales qui n'allaient pas dans le même sens. Alors, d'une part, nous avons changé d'éditeur entre le début et la fin. Nous étions à la Voltaire Foundation qui publiait très bien mais qui exigeait des subventions énormes. Et moi, j'estime que les crédits de recherche ne sont pas faits pour payer des éditeurs, fussent-ils sous un label tout à fait oxfordien. Et par ailleurs, donc nous étions passés à nous sommes passés à une association d'éditeurs qui est ENS Éditions et Classique Garnier, en gardant exactement la même présentation, et également en gardant la même qualité de papier, de couverture, etc., ce qui fait que l'impression de chaque volume, je préfère ne pas vous en dire le prix. Donc, je n'imaginais pas notre nouvel éditeur applaudir à l'idée d'avoir à publier non seulement les volumes qui restaient, mais en plus à refaire un premier volume. Ni les acheteurs du premier volume, qu'il avait acheté à peu près, enfin, l'équivalent de 120 euros, se dire « Ah ben tiens, on va mettre 150 euros pour racheter un volume qu'on a déjà acheté en 98. » Bien. Donc, il y avait des raisons, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a des raisons qui sont matérielles, qui sont financières, qu'on doit toujours considérer. Et nous avons aussi, donc nous nous sommes dit, nous allons le refaire en numérique, mais ça aura l'air de quoi ? On aura l'équivalent d'un volume en numérique et puis le reste sur papier. Et on ne fera pas passer le reste en numérique. Pourquoi ? Parce que ça se vend mal. Et donc, que nous n'allons pas faire le mauvais coup à notre éditeur de dire « Ah bon, bah écoutez, d'accord, maintenant, nous, vous vous débrouillez, on met en numérique. » C'est absolument impossible. Donc, seul le tome 18 et premier pouvait passer en numérique. Comment donner un petit peu de consistance et d'existence à notre entreprise ? Eh bien, en passant par un inventaire qui permet de regrouper, sans fournir l'édition critique, qui va fournir suffisamment d'éléments pour que l'on ait toutes les données matérielles possibles sur l'ensemble de la correspondance. Alors, on peut faire mieux, ça c'est juste pour vous donner un exemple des raisons pour lesquelles nous refaisons cette édition. Vous voyez ce que ça donne un manuscrit quand il a été manipulé à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. Il y a de l'encre partout, il y a du... etc. Bon, là, le G75, tout ça, c'est vraiment des signes parasites. On ne les voit pas, on ne veut plus les voir. Quand j'ai commencé à travailler sur cette édition de correspondance, enfin, en tant que chercheur, je me suis émerveillé. Et je vais vous expliquer comment les écailles me sont tombées petit à petit des yeux, parce que quand je faisais des séminaires d'édition critique, je donnais ce volume en exemple. Par exemple, voyez là, ce P, hein, enfin, ce signe-là, moi je me disais, pouf, c'est un P, pas du tout, disaient les éditeurs, c'est un R, comme répondu. Et je me dis, mais oui, enfin, il faut être innocent pour voir un P. Les vrais érudits savent que c'est un R, et les vrais spécialistes des manuscrits de Montesquieu savent que c'est un R. Bon. Et puis, il y a eu ceci, qui est... Alors, c'était une lettre du frère Sim. Le frère Sim est un prieur des frères prêcheurs de Sainte, et ma collègue russe, Nadia Plavinskaya, sans avoir vu le manuscrit, qui à ce moment-là n'était pas en ligne, me dit, écoute, c'est bizarre, ça ne serait pas Simon, plutôt ? Ah ben oui, c'est Simon, c'est très clair, c'est Simon. Là, vous voyez, alors, zut, c'est pas ça, c'est pas ça. Là, vous voyez, là, Simon. Alors, à force de tomber sur des choses comme ça sans arrêt, on se dit, les grands érudits, grands déchiffreurs de manuscrits, ils sont quand même assez nuls. Et je m'aperçois que le fameux R, il ne ressemble absolument pas à un R, soyons clairs, c'est un P. Hein, et je l'ai vu 150 fois. Alors, je vais vous décevoir, je ne sais toujours pas ce qu'il veut dire. Je sais qu'en tout cas, ce n'est pas répondu. Bon, il se trouve qu'un des principaux éditeurs avait été directeur de bibliothèque, et que pour lui, c'est évident, quand on est dans l'administration, on a un courrier, tac, tac, on lui a répondu, hop. Ben, pas quand on est Montesquieu. On n'a pas le réflexe. Il doit le mettre deux ou trois fois, répondu. Mais vous voyez que, tout à coup, une fois que le doute s'est installé, alors, évidemment, je ne vous fais pas dans la notation aussi les monstruosités qu'on avait trouvées, mais c'était pour vous montrer comment... petit à petit, la nécessité de tout refaire s'est imposée. Je ne vous dis pas les problèmes que ça m'a fait avec les collègues, avec certains collègues. Alors, les éditeurs étaient morts, hein, et sinon, on n'aurait pas pu le refaire. parce qu'il y a des usages académiques, etc. Hein ? Mais, alors, de plus, si vous voulez, il se trouve que c'était des personnes âgées qui, dont la culture était plutôt celle des années 1960, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait, du point de vue des méthodes, etc. Autre problème, on n'avait aucun historien dans l'équipe. Il n'avait aucun historien dans l'équipe. Et ça, pour une édition de correspondance, je suis désolé, c'est impossible. Enfin, me semble-t-il, pour une... Je vais être moins ambitieuse. Pour une édition de correspondance du XVIIIe siècle, c'est absolument impossible. Alors, Nadia Plavinskaya me dit, tu sais, en Russie, tu serais considérée comme une historienne. Bon, d'accord. Moi, je sais qu'un des historiens de l'équipe me dit, bon, pour une littéraire, vous n'êtes pas si mauvaise que ça. Mais c'est un compliment d'une valeur, on va dire, assez limitée. Donc, quand vous n'avez aucun historien dans une équipe d'édition de correspondance du XVIIIe siècle, ça pose problème. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous faisons ? Comment présentons-nous cela sous forme numérique ? Eh bien, le problème, c'est que notre édition imprimée était très bien, et est toujours très bien, et qu'il faut en conserver tous les avantages. Puisque nous avons sur une page, comme vous pouvez le voir dans l'exemplaire qui circule, nous avons toutes les données. Le texte, les variantes. Bon, les variantes, on n'en a pas forcément beaucoup quand on a du manuscrit, mais on peut avoir deux manuscrits, par exemple. On a la lettre envoyée et la lettre reçue. On a alors aussi les notes de l'auteur. Vous allez me dire, dans une correspondance, il n'y a pas de notes. Ben si, justement, parce que le premier éditeur, celui de 1767, c'est un ami de Montesquieu, il ajoute des notes qui sont extrêmement précieuses, donc on les met en notes d'éditeur, et de toute manière, pour l'ensemble des œuvres complètes de Montesquieu, puisque ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on avait fait le site pour l'ensemble des œuvres complètes de Montesquieu, eh bien, on a besoin d'avoir donc quatre champs sur la page. Et puis, évidemment, on a énormément de documents, des annexes, notamment pour les sujets qui sont transversaux, et puis tout ce qu'on a d'ordinaire dans une édition de correspondance, des listes de correspondants, etc. Alors, là, je vous ai donné un petit exemple de ce que peut être les textes que nous avons à éditer. Là aussi, grosse différence par rapport à ce qui nous a été présenté précédemment. Alors, il faut la lire, en fait. Hein. Monsieur, l'honneur de la présente est pour vous souhaiter une bonne et heureuse sainte quarantaine avec l'accomplissement de tous vos souhaits. Je vous envoie par le donneur de la présente 10 paires de poules. Et reçu que vous les ayez, je vous prie de m'en accuser la réception. Et à l'égard de l'avoine, je n'en ai pas reçu en espèces. C'est qu'il y a toutes les peines du monde d'en pouvoir trouver. Etc., etc. Et là, on se dit, mais pourquoi je n'ai pas travaillé sur Diderot ou sur Voltaire ? Parce que là, vraiment, j'allais dire, on touche le fond. Je suis sûr qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'histoire économique dans le canton d'Agen en 1717, mais autrement, si vous voulez, c'est quand même assez terrifiant. Bon, mais ça, c'est le charme de la correspondance passive. Cela nous rappelle que Montesquieu est d'abord un propriétaire foncier, que tous ses revenus proviennent de l'exploitation de ses terres, des loyers, des métairies, de l'impôt, des lots et ventes, etc. Bon, éventuellement de sa charge de président à mortier, c'est-à-dire de juge au Parlement de Bordeaux.